Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est
brisé. Ce matin, Père, viens maintenant. Change-moi. Change quelqu'un dans cette salle. Transforme par ta parole. Métamorphose, Seigneur. Étire quelqu'un. Élargis l'espace de nos tentes. Renverse les limitations. Déploie les potentiels. Étire-nous complètement. Challenge-nous complètement. Qu'il y ait un géant à l'intérieur de moi qui saute, Seigneur, parce que la Bible dit que le monde attend ma manifestation. Le monde attend que j'émerge, Seigneur. Et que je sois la réponse que tu m'as appelé à être. La solution que tu m'as appelé à être. Viens maintenant. Fais-le, je t'en prie. Viens Jésus.
Viens Jésus.
Change-moi.
Change-moi.
Fais-le maintenant.
Fais-le.
Je te prie. Viens Jésus.
Viens Jésus.
Change-moi,
change-moi,
Père maintenant,
Père,
je te prie une dernière fois,
viens,
change-moi,
change-moi,
maintenant,
Père, je te prie.
Jesus' name, do it, fais-le, maintenant. Amen. Alléluia. Oh, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alléluia. Back praise, God bless you. Aujourd'hui, et pour quelques semaines, nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements sur le contrat de maturité que nous avons avec Dieu. Alors nous allons ouvrir nos Bibles à Luc chapitre 13, versets 6 à 9. J'avais prévu pour vous de vous mettre ça sur l'écran géant, mais vous avez eu un problème technique, informatique ce matin. Alléluia. Bless you, Lord. Bless you. Mon frère Eddy, viens t'asseoir. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Viens devant. C'est un ordre. Viens devant. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Viens. Nous allons parler pendant plusieurs semaines du contrat de maturité avec Dieu. Alléluia, blessed be the name of the Lord. Yann, tu peux te mettre là, tu peux te mettre. Est-ce que vous y êtes? Je vais le lire avec la version du semeur. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Là-dessus, il leur raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut y cueillir des figues, mais n'en trouva pas. Verset 7, il dit alors à celui qui s'occupait de sa vigne, « Voilà 3 ans que je viens chercher des figues à cet arbre sans pouvoir en trouver. Arrache-le, je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. Maître, lui répondit l'homme, laisse-le encore 7 années. Je bêcherai encore la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine. Sinon, tu le feras arracher. Que quelqu'un dise amen. J'ai envie de vous parler pendant plusieurs semaines de la maturité, de la croissance et de la maturité. Que quelqu'un dise maturité. Que quelqu'un dise croissance. Voyez-vous, nous n'avons pas le choix, lorsque vous venez à Dieu, de toutes les manières, c'est un commandement, nous devons croître. Les églises sont remplies de personnes qui viennent tous les dimanches, mais qui ne grandissent jamais. Que quelqu'un dise amen. Qui ne grandissent jamais, et le pire, ce n'est pas qu'elles grandissent jamais seulement. Le pire, c'est qu'elles ne mûrissent jamais. Remarquez dans ce passage que Jésus n'est pas venu voir le figuier pour savoir s'il avait des feuilles. Je me suis rendu compte que dans la vie, vous pouvez bien grandir. Mais grandir, ce n'est pas ce que Dieu vous demande. Que quelqu'un dise amen. Ce que Dieu vous demande, c'est de porter du fruit. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup de gens ont grandi. Mais ce n'est pas ça qui intéressait Jésus. Parce que vous savez, avant de devenir un arbre, au départ, il y a une semence qui a été plantée dans la terre. Cette semence a donné naissance à un arbre. L'arbre a grossi. Il a même commencé à produire des feuilles. Le problème, c'est que ça ne suffisait pas du tout pour Dieu. Que quelqu'un dise amen. Je vais vous parler pendant plusieurs semaines du contrat de maturité. Parce que Dieu demande, exige que tu grandisses, que je grandisse, mais pour arriver à porter du fruit. Il ne suffit pas seulement de grandir pour grandir. Il faut grandir, croître, pour arriver au stade où tu peux porter du fruit. Que quelqu'un dise amen. Cet arbre a grandi, mais cet arbre ne présentait pas de fruits au bout de quelques années, au bout de 3 ans. 3 ans, c'était le temps du ministère de Jésus sur la terre. 3 ans et demi en réalité. Pendant 3 ans qu'il a parlé, il a prêché, il a encouragé, il a motivé, il a challengé. Malgré les 3 ans là, et moi je crois vraiment que 3 ans c'est un chiffre symbolique. Et que après les 3 ans là, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 3 ans. Mais quand après 3 ans, tu ne portes toujours pas de fruits, tu es en danger. Que quelqu'un dise amen. Croître ne signifie pas être parvenu à la maturité. Plusieurs personnes ont grandi. Regardez aujourd'hui. Vous avez des gens qui ont 30 ans, qui ont 50 ans, mais qui n'ont jamais mûri. Vous le reconnaissez à quoi? Moi, c'est très simple. Quand je vois un homme de 40 ans ou de 50 ans qui va chercher des filles de 15 ans, je comprends qu'il n'a jamais mûri. Physiquement, il a grandi, mais mentalement, il n'a jamais grandi. Alléluia. Alors, c'est quoi la maturité? La maturité, c'est lorsque les fruits de votre transformation, les fruits de votre marche avec Dieu, deviennent visibles aux yeux de tous. La maturité, c'est lorsque le fruit devient visible. Je vais partager pour commencer avec vous 6 raisons ou 5 raisons pour lesquelles nous devons croître pour devenir mûr. Pendant cette série, nous parlerons de pourquoi est-ce qu'il faut croître pour porter du fruit. Pourquoi est-ce qu'il faut arriver à la maturité. Nous parlerons de où, dans quel domaine est-ce que je dois arriver à la maturité. Nous parlerons de comment est-ce que je dois arriver à la maturité. Et nous parlerons de quand est-ce que je dois arriver à la maturité. Que quelqu'un dise amen. Voyez-vous, atteindre la maturité, c'est simplement manifester l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est avec ça que nous avons été créés. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Et Dieu est exigeant. Le jour, mon frère, ma sœur, où Dieu, par le Saint-Esprit, entre dans ta vie, Dieu veut te restaurer dans son plan original. Dieu veut remettre en toi l'image du commencement. Pas l'image dégradée de quelqu'un qui est dépressif, oppressif, compressif. Pas l'image de quelqu'un qui est down, qui est toujours, comment ça va, ah, coussi, coussa. Quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui s'inquiète. Ça, ce n'est pas l'image de Dieu, que quelqu'un dise amen. Ça, ce n'est pas l'image de Dieu. Ça, ce n'est pas l'image du Créateur, c'est l'image de la créature. Que quelqu'un dise amen. Et le but de Dieu, c'est lorsqu'il nous prend Dieu ne nous prend jamais du 15e ou du 30e étage pour nous amener au sous-sol. Dieu nous prend toujours down pour nous faire monter, afin que nous le ressemblions parfaitement. Que quelqu'un dise amen. Il en va de la crédibilité de Dieu. Lorsque Dieu entre dans ta vie par le Saint-Esprit, lorsque tu reçois Jésus de Nazareth dans ta vie, Dieu alors s'emploie par la puissance qu'il a, par la puissance de son esprit, il s'emploie à transformer ta vie. Afin que là où on avait dit hier, chaos, Dieu dise maintenant, ok. On a dit, elle ne peut pas changer, regarde là, sa vie ne peut pas changer. Dieu dit, vous allez voir ce que je suis capable de faire. Je vais nettoyer le vase de l'intérieur. Et il va rayonner, resplendir à l'extérieur. Ça veut dire que croître pour arriver à la maturité, ce n'est pas une option. C'est un commandement. C'est comme ça que tu étais. C'est là où Dieu veut te ramener. Dis à ton voisin, Dieu veut te ramener. David dit dans le psaume 8, au verset 2. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Voici, tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Et la version hébreu littéralement dit, voici, il s'en est fallu de peu pour qu'il ne soit comme Dieu. Aujourd'hui, on voit un pitbull enfoui. Aujourd'hui, nous transportons tout souvent l'inquiétude, le stress, les soucis, la colère, les angoisses, l'amertume, le manque de pardon, le rejet, la dépression. Ça, ce n'est pas l'image de Dieu. Dieu veut te transformer afin que tu resplendisses sa nature. Parce que je vous ai dit au cours d'un enseignement précédent, sur que ton règne vienne, que le but de Dieu, la volonté de Dieu, c'était que l'homme puisse le glorifier. Ça veut dire que l'homme puisse refléter sa nature, ses attributs et ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu veut travailler dans ton... Dieu veut travailler à l'intérieur de toi par le Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit de dire, je suis comme je suis, je fais ce que je veux. Parce qu'en réalité, mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle pour Dieu et la mauvaise nouvelle pour toi, c'est que tu ne t'es pas créé tout seul. Personne ici n'a le droit de dire, je fais ce que je veux. De toute manière, ma vie m'appartient. Ta vie ne t'appartient pas, mon frère, ma soeur. Il suffit seulement que Dieu dise, on va voir si tu es capable de respirer sans ma grâce. Et coupe le souffle de vie et tu es complètement KO. Allez, Dieu dit, allez, remets-lui le masque à oxygène naturel. Allez, Dieu remet l'air. Et puis tu respires. Mon frère, ma soeur, c'est une grâce de Dieu. Certaines personnes travaillent. Elles ont des dons, elles ont des talents. Elles ont étudié et puis elles sont brillantes, elles sont compétentes. Et elles pensent que c'est leur intelligence qui leur a permis d'arriver là où elles sont et d'avoir ce qu'elles ont. Mon frère, ma soeur, tu te plantes complètement. La Bible dit que tout est grâce. Le fait de travailler, le fait d'avoir une intelligence pour comprendre quelque chose, c'est une grâce de Dieu. Je me souviens de l'histoire de Mamadou Karambiri, très brillant. Il a raconté son, c'était un ancien musulman. Maintenant, il est pasteur, il est prédicateur de l'évangile. Il a la plus grande église au Burkina Faso, une des plus grandes églises en Afrique francophone. Je me souviens de son témoignage. Il disait qu'il était tellement doué. Un jour, quand il est allé faire son examen de doctorat en économie, le jour de l'examen, il a vu le sujet. Le sujet était tellement facile. Vous savez ce qu'il a dit en son cœur? Que quelqu'un dise en son cœur. Il n'a pas dit ça à haute voix. Mais le problème, c'est que la Bible dit que Dieu sonde les cœurs. Donc, même quand tu penses, en me regardant là, tu dis gros nez, Dieu t'entend. Je suis comme je suis une créature si merveilleuse. Ah! Il m'a vu, il m'a créé et il s'est réjoui. Que quelqu'un dise amen. Alléluia, glory be to God. Et il a vu le sujet, c'était tellement facile. Mais il a dit, aujourd'hui là, c'est fini l'examen, je l'ai. Même si Dieu ne veut pas, je l'ai. Et voilà le témoignage qu'il a rendu. Il a dit, au moment où j'ai dit ça, la seconde d'après, j'ai eu un trou de mémoire. Un trou de mémoire et je commençais à paniquer. Je ne me souvenais plus de rien. Et un gars aussi brillant, il a commencé à regarder, commencé à demander à ses copains, excuse-moi, tu peux m'aider là? Non, moi je peux pas, débrouille-toi. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Simplement pour vous dire que mon frère, ma soeur, sans la grâce de Dieu, tu n'es absolument rien. Amen. Donc Dieu veut que tu croisses. Pourquoi est-ce que tu dois croître pour devenir semblable à Christ? Un, c'est une loi naturelle. Tout ce qui est né a un commandement. Toute semence. Et avant de naître, tu étais sous la forme de semence. En grec, le mot semence se dit sperma. Donc, avant de naître, toi qui me regardes, mon frère, ma sœur, tu étais aussi sous forme de semence. Or, toute semence est appelée à croître et à porter du fruit. C'est une loi naturelle. Tout ce qui ne porte pas du fruit naturellement a un problème. Une maladie ou un handicap. Que quelqu'un dise amen. Ça veut dire que lorsque tu ne t'engages, lorsque tu ne décides pas de grandir et de mûrir et de porter du fruit, ça veut dire que tu es en train de t'opposer à une loi naturelle. Mais mon frère, ma soeur, si tu t'opposes à une loi naturelle, ça veut dire que tu es en train d'attaquer la nature. Je ne connais personne qui a attaqué la nature et qui soit sorti vainqueur. Demandez à cet homme qui s'est jeté du 30e étage en disant « Je suis Superman. » J'ai vu ça à la télévision. Moi aussi, je vais l'imiter. Il a attaqué la nature. Il a attaqué une loi de la nature qu'on appelle la loi de l'apesanteur. Et la nature l'a accueilli au sol en lui disant « Bienvenue, Superman. Maintenant, tu seras enterré. » Que quelqu'un dise « Amen. » C'est une loi naturelle. Alors, ça veut dire dès lors que tu t'engages avec Dieu, tu dois grandir. Tu ne dois pas seulement grandir, tu dois porter du fruit. Que quelqu'un dise amen. Ne te contente pas de dire, ah pasteur, tu vois, j'ai changé. Ah, tu vois, j'ai grandi. Non, mais est-ce que le fruit est là? Est-ce que le fruit de la douceur? Est-ce que le fruit de l'amour? Est-ce que le fruit de l'humilité? Est-ce que le fruit de la sagesse? Est-ce que le fruit de la crainte de l'Éternel? Est-ce que le fruit de la patience, de l'endurance, de la persévérance? Est-ce que le fruit est visible? Est-ce que ta mentalité était complètement transformée? Le point numéro 2, c'est que c'est l'ordre que Dieu a créé, c'est l'ordre que Dieu a donné à l'être humain lorsqu'il a mis sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 28. Puis Dieu dit, deux points. Soyez féconds. Ça veut dire soyez productifs. Ou encore, ça veut dire porter du fruit. C'est un commandement. Ce n'est pas une option. Alléluia. Ça fait partie des 5 commandements du commencement. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a la religion a inventé les 10 commandements, mais laissez-moi vous dire une chose. Moi, j'ai trouvé dans la Bible les 5 commandements. Que quelqu'un dise les 5 commandements. Bon, d'abord, sachez que ceux qui disent qu'il y a les 10 commandements, parce qu'il y en a, oui, mais moi, j'obéis aux 10 commandements. Écoute, il n'y en a pas 10 dans l'Ancien Testament, dans la loi, il y en avait 633. Il n'y en avait pas 10. Mais les 5 commandements de Genèse 1, verset 28, sont les suivants. 1. Porte du fruit. 2. Multiplie-toi. 3. Assujettis la terre. 3. Remplis la terre. 4. Assujettis. Et 5. Domine. Que quelqu'un dise amen. Ce sont les 5 commandements que Dieu m'a donnés. Et tous les matins, quand je me lève, je sais que 1. Je dois porter du fruit en toute saison. 2. Je dois me multiplier. 3. Je dois envahir. Élargir. Je suis seul, mais vous savez, quand il dit remplis la terre, il parle de l'influence. Il ne parle pas de toi physiquement, parce que même quand tu fais le grand écart, ta taille est quand même limitée. Alors il parle de remplir la terre, remplissant, en répandant son influence au travers de moi. Son influence se répand dans plusieurs territoires déterminés. 4, il dit assujetti. 5, il dit domine. Quand tu vois un serpent, arrête de fuir le serpent, dis au serpent au nom de Jésus. Bon, ce jour-là, tu as quand même intérêt à avoir jeûné pendant 40 jours. À être tellement rempli du Saint-Esprit que quand tu vois un serpent qui se lève devant toi, tu dis, serpent! Ah, mon gars, là, bon. Chacun sa foi. Je n'ai pas encore cette foi-là par la grâce de Dieu, mais ça viendra. Dieu ordonne que nous soyons féconds. Beaucoup de croyants sont physiquement féconds, mais sont spirituellement stériles. Et c'est une tragédie. Parce que c'est un commandement. La troisième raison pour laquelle tu dois croître et porter du fruit pour devenir... Oui, porter du fruit simplement. La troisième raison, c'est que l'immaturité ou encore l'incapacité à porter du fruit est perçue par Dieu comme étant un acte de désobéissance et de rébellion. Je répète, lorsque tu ne portes pas de fruit, Dieu ne dit pas ce n'est pas sa faute. Ah, regarde-le, il a souffert, elle a souffert, son conjoint l'a quitté. Ah, elle était battue. Elle a souffert dans son enfance. Dieu, lorsqu'il vient à l'intérieur de ta vie par le Saint-Esprit, et qu'il voit que tu ne portes pas de fruits au bout d'un certain temps, la réaction de Dieu, c'est l'exaspération, parce qu'il prend ça comme étant un acte de désobéissance. Dans le passage que nous avons lu, dans le passage que nous avons lu, il dit, ça fait 3 ans que je viens chercher des figues à cet arbre, sans pouvoir en trouver. Arrache-le, je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. Je lui donne une année supplémentaire. Alléluia. Lorsque tu ne portes pas de fruits, la raison pour laquelle Dieu te considère comme étant responsable, c'est parce que beaucoup de gens, vous savez, il y a beaucoup d'entre nous qui vivons encore dans le passé. Beaucoup d'entre nous, nous sommes encore prisonniers de nos échecs, de nos frustrations, de nos malheurs et de nos expériences du passé. Le problème, c'est que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu continues de trimballer sur ton dos, sur tes épaules, lorsque tu continues de trimballer les lourdeurs, les fardeaux de ta vie passée, Dieu considère que c'est toi le responsable. Pourquoi? Parce que c'est toi qui les portes. Tu as dit, oui, mais je ne peux pas me détacher. Tu peux t'en détacher. Après, tu as besoin qu'on t'enseigne comment faire pour t'en détacher, mais tu peux t'en détacher. Parce que le jour où tu décides que ça changera, ça changera. La plupart d'entre nous, ça ne change pas parce que nous n'avons jamais décidé que ça change. Nous n'avons jamais tapé du poing sur la table en disant, maintenant ça suffit, il faut que ça change. La plupart d'entre nous, nous continuons toujours de nous apitoyer, ah, c'est compliqué, ah, c'est dur. Et puis on aime parler de nos souffrances passées. On aime parler des expériences difficiles de notre passé. On aime parler parce qu'on aime inspirer la compassion, la pitié. Ah, tu vois comment j'ai souffert, Dieu donné. Ah, ça a dû être difficile. Ah, oui, c'était difficile. Il m'a même dit, ah, il m'a même dit ça. Je ne t'aime plus, ah! Quand tu fais ça, tu es en train volontairement d'aller rappeler le passé. Paul dit, rejetant ce qui est en arrière, je cours vers l'avant. Que quelqu'un dise amen. Et forcément, ça t'empêche de porter du fruit agréable à Dieu. Parce que la plupart des gens qui ne portent pas de fruit ont toujours une bonne excuse, qui est souvent vraie d'ailleurs. C'est pas qu'il faut un caprice, c'est que c'est une bonne excuse pour ne pas porter du fruit. Le problème, c'est que ça irrite Dieu. Parce que lui, quand il vient te voir, il dit, ça fait combien de temps là? Tu vas à l'église depuis combien de temps? Seigneur, si ça fait 3 ans, réfléchis bien. Mais même quand tu dis, ça fait 1 an, ça fait 6 mois. Mais remarquez, en 6 mois, il y en a qui ont réussi à porter du fruit. Que quelqu'un dise amen. Moi, vous savez, je me souviens quand je me suis converti au Seigneur, je suis allé dans une église, il y avait des gens qui étaient là bien avant moi. Mais moi, quand Dieu m'a touché, il m'a envoyé en Italie, dans un pays où vraiment il y avait beaucoup d'abominations. Il m'a isolé. Alors j'aurais pu tomber ou j'aurais pu foncer. J'ai choisi de foncer. J'avais pas de pasteur, j'avais personne. Il y en a qui disent non, parce que j'avais pas de bon pasteur. Mon ami, j'avais pas de pasteur. J'avais personne pour m'encadrer. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté beaucoup, beaucoup de cassettes audio. Je me suis saturé, nourri de la parole. Il m'arrivait de prier et puis il m'arrivait, pardon, de manger sans prier. Il y a quelqu'un qui n'est pas gêné parce que lui, il ne prie pas. Toi, tu ne pries pas avant de manger. Pas toi, ton voisin, il ne prie pas avant de manger. La Bible dit, rendez grâce en toute chose. Lui, il va sur la nourriture. Pouf. La Bible dit de rendre grâce. Mais même ça, c'est des choses que j'avais du mal à faire. Mais à chaque fois que j'avais du mal, je me disciplinais moi-même. Parce que je savais d'où je venais. J'avais vu que le diable existait. Il y en a, ils n'ont jamais vu le diable ici. Enfin, quand je parle de... Vous savez, on n'a pas besoin de voir Satan physiquement. On voit ses œuvres. Que quelqu'un dise amen. Et quand tu vois l'enfer manifesté par un être humain, réfléchis. Alléluia. Et je vous dis, j'avais pas de pasteur. J'avais des cassettes, des enseignements, et j'écoutais ça tous les jours. Et je me disciplinais. J'oublie de prier avant de manger. Je fais 1 jour de jeûne pour me punir moi-même. Ah oui, c'est ce qu'on appelle la discipline. Je me chicotais moi-même. Et je peux vous assurer que quand le lendemain je venais devant mon repas, je savais pourquoi. Vous pensez que j'allais oublier de prier? Mais non, tu ne peux pas oublier. Mais je me disciplinais moi-même. Et au bout de 6 mois, je peux vous assurer que je connaissais des gens qui étaient dans le Seigneur depuis 5 ans. Hein, depuis 5 ans, quand tu leur demandes comment ça va? Ah, quand ils viennent me rendre témoignage à l'église. Alléluia, fratello. Et Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a libéré. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais dépressif la semaine dernière. J'ai crié au Seigneur. Le Seigneur m'a délivré. Et puis toutes les semaines, j'étais dépressif. Ça n'allait pas. J'étais comme ça. Puis moi, je ne connaissais pas tout ça. J'ai dit, mais c'est quoi votre problème? Je me suis rendu compte que c'était des gens qui ne grandissaient pas, qui ne portaient pas de fruits. Que quelqu'un dise amen. Lorsque tu ne portes pas de fruits, Dieu considère que c'est toi le responsable. Parce que toute semence, je dis bien toute semence, contient une instruction invisible qui dit multiplie-toi et reproduis-toi. La semence, lorsque vous plantez la graine de tomate en terre, la graine de tomate, vous ne lui dites, est-ce que vous avez déjà planté une graine de tomate en disant, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, tu dois reproduire des tomates. Il n'y a pas besoin de lui dire ça. La graine de tomate a été créée par Dieu, hein, avec quelqu'un qui dit amen. Et Dieu a mis à l'intérieur une loi qui sait que lorsqu'elle va en terre, elle sait qu'elle est obligée de grandir, de pousser, pas seulement des feuilles, mais de donner du fruit. Elle le sait. Et Dieu l'a mis à l'intérieur de chacun d'entre nous. Porter du fruit. Quand je parle de fruit, je parle du fruit de l'esprit. Alléluia. Alors arrête de donner des excuses pour là où tu es aujourd'hui. Parce que tes excuses, mon frère et ma soeur, t'empêchent de porter du fruit. Les gens qui portent du fruit dans la vie, ce sont des gens qui ont aussi beaucoup souffert, mais qui disent simplement à un moment donné, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Je vous dis ça parce que le livre sera sûrement disponible la semaine prochaine. Maintenant ça suffit, il faut que ça change. J'en ai assez, d'accord, j'ai vécu ça, d'accord, j'ai connu des difficultés, d'accord, maintenant ça va changer, ça doit changer, assez c'est assez. Quand tu dis ça, tu es qualifié pour commencer à grandir. La quatrième raison pour laquelle tu dois porter du fruit. Nous allons ouvrir Matthieu chapitre 21, parce qu'il y en a qui risquent de ne pas me croire. Alors, nous allons ouvrir Matthieu 21, verset 18 à 20. La quatrième raison, suivez-moi bien, c'est que Dieu finit par maudire, en beau, et par exclure tout ce qui ne porte pas de fruit. Dieu finit par le maudire et par l'exclure. Maudire, ça veut dire prononcer une parole négative. Malédire, en latin. Matthieu 21, verset 18 à 20. Je lis avec la version du Semeur. Tôt le lendemain matin, en revenant vers la ville, il eut faim, en parlant du Seigneur Jésus. Verset 19. Il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Alors il dit à l'arbre, tu ne porteras plus jamais de fruits. À l'instant même, le figuier devint tout sec. En voyant cela, les disciples furent très étonnés et s'écrièrent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Dans la version de Luc et de Marc, vous allez voir que la Bible dit qu'il a maudit le figuier. Il lui a dit, « À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus jamais de fruits. » Il est arrivé, il a demandé à avoir du fruit, le fruit n'était pas là. Il n'y avait que des feuilles. L'arbre avait grandi, mais les fruits n'étaient pas là. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus jamais de fruits. Mon Dieu, quelle tragédie. Lorsque vous ne portez pas de fruits, lorsque votre vie ne porte pas de fruits, vous êtes en train de discréditer Dieu. Parce que voyez-vous, la raison pour laquelle Dieu nous touche, Dieu nous transforme, Dieu nous sauve, c'est parce que Dieu veut faire de notre vie un sujet de témoignage. Que quelqu'un dise amen. Dieu veut faire de ta vie un témoignage. Dis à ton voisin, Dieu veut faire de ta vie un témoignage. Regarde de l'autre côté, dis-lui, Dieu veut faire de ta vie un témoignage. Dieu veut faire de ta vie un témoignage. Dieu est sérieux. Dieu a investi en toi. Il a mis le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, tu penses que c'est pour rester comme tu es? Tu continues de te dire, ah, je n'arrive pas à sortir du péché. Ah, parce que je tombe tout le temps dans la fornication, dans l'adultère, dans le péché. Je sais que c'est pas bon d'avoir des relations hors mariage, mais à chaque fois je tombe dedans. Ah, parce que c'est pas ma faute. Ah, bon? Il y a des gens qui prolongent eux-mêmes volontairement la durée de leur désert. Parce que chacun de nous passe par le désert. Que quelqu'un dise amen. Mais vous savez, moi je me suis rendu compte que le temps dans le désert ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de nous. Parce que voyez-vous, le trajet qu'il fallait, la durée pour faire le trajet, Égypte, désert d'Égypte jusqu'à Canaan, ça prenait 11 jours. 11 jours. Israël l'a fait en 40 années. Je ne sais pas quel est le coefficient multiplicateur. Mais ce que je sais, c'est que je n'ai pas envie que ça m'arrive. Que quelqu'un dise amen. Si vous ne coopérez pas, il dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Ça veut dire que quand je suis en train d'être transformé, Dieu est capable de montrer au monde, aux gens qui ne croient pas en lui, on leur disait, regardez ce que je suis capable de faire. Je prends quelqu'un, je le transforme complètement. Maintenant, regardez la personne, elle répondit. Hier, elle était dans le rejet. Aujourd'hui, elle vit dans l'acceptation. Hier, elle marchait dans la honte. Aujourd'hui, elle marche dans la gloire. Hier, elle était malade. Aujourd'hui, elle est guérie. Donc, il y a des choses que Dieu veut manifester. Dieu doit manifester dans ta vie parce qu'il en va de sa crédibilité. Si Dieu ne le fait pas, on va croire que Dieu n'est pas réel. Si tu ne changes pas, si tu ne mûris pas, les gens vont dire, mais le Dieu dont tu parles là, c'est du n'importe quoi. Et finalement, les gens ne pourront pas revenir à Dieu à cause de ton mauvais témoignage. Ça veut dire que Dieu est en colère. Alors des fois, il vient et dit, est-ce qu'il porte du fruit? Et puis, le Saint-Esprit qui est notre intercesseur, et puis le Saint-Esprit qui est notre avocat, disent, Seigneur, attends, on va encore travailler. Pas encore. Et ça fait 3 ans, pas encore. Elle s'est convertie hier, il y a 3 ans maintenant. Elle s'habillait comme Marie de Magdala au début. Marie de Magdala, c'est une prostituée. Elle s'habillait toujours avec des tenues bizarres. 3 ans plus tard, elle met les mêmes tenues bizarres pour venir à l'église. Dieu dit, là, il y en a assez. Je vais commencer à la frapper. Attendez, il ne faut pas déconner. Au début, on comprend. La première fois, on comprend. Deuxième fois, on comprend. Troisième fois, on comprend. Le problème, c'est qu'il y en a qui ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas se remettre en question. Oh, il y a l'église, il y a l'amour. L'amour veut dire, acceptez-moi tel que je suis. Bien sûr, mais on t'aime beaucoup trop pour te laisser tel que tu es. Parce que tu dois monter, tu dois grandir. Que quelqu'un dise Amen. Tu ne peux pas dire, Alléluia, j'aime Dieu, et puis toujours t'habiller comme Marie Magdalene, surtout quand il fait chaud. Et les frères souffrent. Que les frères disent Amen. Alors mes sœurs, arrêtez d'agresser les frères. Et puis elle te dit, ah, mais eux. Mais non, mais faut grandir. Dis à ton voisin, faut grandir. Dis-lui, faut mûrir. Il y a des gens qui viennent au Seigneur. Vous savez, il y a des frères qui viennent au Seigneur, qui viennent de loin. Moi, quand je me suis converti, je venais de loin. Ma faiblesse, c'était les femmes. C'est pas la peine de me regarder, c'est fini. Ne regarde pas comme ça. T'approches, tu vas voir. Tu vas voir un fouet qui va tomber sur toi. Puisque... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a fouetté. Oui, oui. C'est le seul cas dans lequel la Bible autorise le fouet. Alléluia. Mais les amis, il faut grandir. Tu vas continuer de te comporter comme hier. Hein? Et la maturité, là, on va voir ça tout à l'heure. Mais tu dois grandir. Tu ne peux pas continuer de te comporter comme avant. Je vous dis, il y a des frères qui viennent au Seigneur. Comme moi, quand je me suis converti, ma faiblesse, c'était les femmes. Tu arrives à l'église, et puis, tu es encore plus bombardé, parce que là, on est dans un petit périmètre. Donc, au mètre carré, tu vois des choses, tu dis, ah Seigneur, sauve-moi d'ici. Je pensais, parce que l'église doit être un centre de refuge. Que quelqu'un dise Amen. L'église doit être une maison dans laquelle on se réfugie pour trouver l'amour, l'acceptation, le réconfort, mais aussi un peu de sainteté quand même. Tu peux pas arriver à l'église, tu vois une sœur là, mon ancien pasteur appelait ça, chérie, montre-moi ton dos. Tout ça là dehors. Mais... Donc le frère, il arrive là, puis le frère commence à soupirer, il dit, Seigneur, aide-moi à lutter contre le péché. Mais la Bible dit, si ta liberté devient pour ton frère une occasion de chute, alors tu pèches. Et Dieu va te juger. Si quelqu'un tombe à cause de ce que tu te permets de faire, et ce qui me fait le plus rire, c'est que quand ils font ça souvent, ils disent, mais je ne me suis pas rendu compte. Bon, prends un miroir et 2 miroirs, un devant et derrière. À partir d'aujourd'hui, quand tu sors, regarde, mets un à gauche, un à droite, un devant et derrière. Comme ça, au moins, tu ne nous diras plus. Je ne fais pas exprès. Moi, je vous dis, si c'est moi qui te vois, si moi je t'attrape, moi, Ivan Castano, je suis direct. Je suis tellement direct que des fois, je fais fuir les gens, il paraît. Mais je suis rempli d'amour. Mais l'amour ne veut pas dire qu'on ne doit pas être ferme. La Bible dit Dieu châtie ceux qui l'aiment. Dieu nous aime, c'est pour ça qu'il nous redresse, il nous corrige. J'aime mes enfants, c'est pour ça que des fois je donne une petite fessée. Que quelqu'un dise Amen. Voilà, quand on aime, on châtie. Quand on aime, on doit se dire la vérité. Amen. Dis à ton voisin, il faut grandir. Dieu finit par retrancher. Dans Jean chapitre 15 au verset 2, il est écrit aussi, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, mon père le retranche. Il le retranche, c'est-à-dire il le coupe. Mais attendez, quand j'ai lu ce passage-là, je me suis dit, attends, Seigneur, tu es sérieux? Tu veux dire que tu es capable de retrancher de toi, d'enlever, exclure de toi quelqu'un qui ne porte pas de fruits? Le Seigneur m'a donné plusieurs passages bibliques qui prouvent que lorsque quelqu'un ne veut pas porter du fruit, Dieu finit par le rejeter. Waouh! Mais je dis, mais Seigneur, tu es amour, non? Il dit, je suis amour. Ah, c'est quand tu lis le Nouveau Testament. Mais je suis le même Dieu. Et beaucoup d'entre nous, je connais des gens qui ont peur de lire l'Ancien Testament. Et ils ont peur. Quand tu lis l'Ancien Testament, vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous avez une image de Dieu qui est équilibrée. Que quelqu'un dise équilibré. Le Nouveau Testament vous révèle Dieu comme étant le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Si vous ne gardez que cette image de Dieu, cette image est correcte, mais elle est incomplète. Il faut lire l'Ancien Testament. Parce que quand tu lis l'Ancien Testament, tu vas voir que pour un I ou pour un A, Dieu frappait quelqu'un. Dieu était capable de tuer quelqu'un en une fraction de seconde, simplement parce que Uzza est en train, Uzza veut simplement aider à redresser l'arche de l'Éternel, Dieu le frappe. Bah! Red mort. Quand je lis ça, ça me donne la chair de poule. Il y en a parmi nous qui ne lisons même pas Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15. Qui connaît Deutéronome 28 à partir du verset 15? Vous voyez, les autres ne connaissent pas. Vous ne connaissez pas? La plupart des gens connaissent Deutéronome chapitre 28 verset 1 à 14. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui s'attacheront à toi lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Le fruit de tes entrailles sera béni. Ah, béni, 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 béni. Alors nous sommes bénis. Alléluia. Oh, béni. Maintenant, à partir du verset 15, beaucoup ferment la Bible. Oh, non, ça c'est pas pour moi. Mais c'est la même parole que quelqu'un dise amen. À partir du verset 15, il dit, voici les malédictions qui s'attacheront à toi lorsque tu désobéiras à la voix de l'Éternel. Moi, j'aime lire ça. Parce que vous savez, la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de... C'est pas la peur de l'Éternel, c'est la crainte. La crainte de l'Éternel ne veut pas dire la peur. Il ne faut pas avoir peur de Dieu, mais il faut avoir la révérence. Le mot crainte doit simplement dire la révérence. La crainte de l'Éternel, c'est important d'avoir la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel te fait fuir le péché. La crainte de l'Éternel te fait haïr le mal. La crainte de l'Éternel, même lorsque personne ne te voit, la crainte de l'Éternel, lorsque tu as de l'argent, la crainte de l'Éternel fait que tu dises, je ne touche pas. Et si tu n'as pas la crainte de Dieu, oh Dieu est bon, Dieu est amour. Mais mon frère, Dieu est aussi justice et jugement. Dieu frappe. Que quelqu'un dise amen. Alors si quelqu'un ne savait pas, n'aie pas peur. Dieu c'est un père, mais Dieu fait avec nous ce que nous faisons avec nos enfants. Lorsque nous sommes des bons pères, évidemment. C'est-à-dire, il réprimande. Des fois, il donne une petite fessée. Boum! Quand Dieu donne la fessée, mon frère, il y a des choses bizarres qui se produisent. La pire des choses qui puissent t'arriver, qui puissent m'arriver, ce n'est pas de mourir, ce n'est pas d'être malade. La pire des choses qui puissent arriver à un être humain, laissez-moi vous dire, je le crois sincèrement, c'est d'être rejeté par Dieu. Parce que lorsque Satan te rejette, c'est une bonne nouvelle. Mais il va quand même te poursuivre. Mais là, tu te réfugies en Christ. Et la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais, mon frère, si Dieu te rejette, tu vas te cacher où? Même quand tu vas au fin fond de l'enfer, Dieu est omniprésent. Si Dieu te rejette, tu vas te cacher où? Alors, pourquoi porter du fruit? Pourquoi mûrir? C'est parce que si tu ne mûris pas, Dieu t'exclut. Il te retranche. Il y a des gens qui ont déjà été retranchés depuis longtemps. Et laissez-moi vous dire une chose. Allez envers tout le monde. Allez vers tout le monde. Aimez tout le monde, parlez à tout le monde. Mais n'invitez jamais chez vous quelqu'un que Dieu a rejeté. Je répète. N'invitez jamais chez vous quelqu'un que Dieu a rejeté. 1 Corinthiens 5, versets 9 à 11. Je vous le lis. Dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. C'est-à-dire, la débauche, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les relations sexuelles hors mariage. 1 Corinthiens 5, versets 9 à 11. Verset 10, je lis. Mais je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mène une vie de débauche ou avec les avares, les voleurs, les adorateurs d'idoles. Paul dit, je ne vous ai pas dit de vous couper complètement des gens qui sont des voleurs, des idolâtres, des menteurs, des fornicateurs qui ne connaissent pas Dieu. Non, eux, ne les quittez pas. Allez vers eux. Que quelqu'un dise amen. Il dit, c'est pas de eux, c'est pas de ces personnes-là dont je parle. Car alors, il vous faudrait sortir du monde. Non. Verset 11. Je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, virgule, tout en se disant votre frère. Moi, je rajoute votre sœur. Vivrait dans la débauche ou serait avare, c'est-à-dire cupide, idolâtre, calomniateur. Un bon calomniateur aussi. Adonné à la boisson, donc à alcoolique. Ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre de repas. Waouh. Quelqu'un qui se dit frère ou sœur. Quelqu'un qui chante Alléluia. Quelqu'un qui dit gloire à Dieu. Qui est dans cette catégorie-là. Paul dit, ne t'assieds même pas avec lui pour manger ensemble. Waouh. Vous voulez que je vous donne un autre exemple? Regardez Jonas. Quelqu'un qui était rejeté par Dieu. Il choisit volontairement de désobéir à Dieu. Et puis il vient te dire, ah tiens, allons faire une escapade, allons faire une tournée. Mon frère, dès que tu rentres chez lui, non même pas, dès qu'il rentre chez toi, la poisse est rentrée chez toi. Parce que avant que Jonas te monte dans le bateau, tout allait bien. Lorsque Jonas, qui désobéit à Dieu volontairement, monte dans le bateau, soudainement, la tempête vient sur tout le bateau. Il y a des malheurs que tu expérimentes dans ta vie à cause de tes fréquentations. Il y a des gens, le problème c'est pas des gens qui vivent dans le péché. Ces gens qui vivent dans le péché ne doivent pas t'influencer, tu dois les influencer. Mais je parle des gens qui se disent croyants en Jésus-Christ, remplis du Saint-Esprit et qui font ces choses-là. Tu les mets dans ton bateau va couler. Waouh. Que quelqu'un dise amen. Alors frère, fais attention. Mon frère, ma soeur, fais attention. Ne reçois pas, vous savez, c'est vrai, la Bible dit d'exercer l'hospitalité, mais surtout envers les saints. Mais la Bible ne dit pas d'exercer l'hospitalité envers tout le monde. Il y a des gens qu'il ne faut pas recevoir. Vous allez voir qu'il y a des gens, vous allez les recevoir chez vous. Ce sont des gens qui vous disent qu'ils croient en Dieu, qui sont convaincus qu'ils croient en Dieu, mais qui sont en abomination devant Dieu, que Dieu a déjà coupé depuis longtemps, il a rejeté. Tu reçois cette personne chez toi, brusquement ton enfant devient malade. Brusquement quelque chose dans la maison, les choses commencent à se casser. J'ai vu ça. Et là, ce n'est pas la peine de dire, je vais prier par la foi. Ne le reçois pas. Ah, il va te dire, et là, quand tu vas dire ça, il va te dire, mes frères, tu es en train de me juger. Non, tu ne le juges pas. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt, condamnez-les. Tu ne condamnes pas la personne, tu condamnes ses œuvres. Excuse-moi, si tu me dis, tu es un frère, tu es un pasteur. Moi, j'en ai rencontré. Quelqu'un qui me dit, je suis pasteur, je suis comme ça. Mais je sais que le gars, il est en train de mentir. Je sais qu'il a des femmes, il a des copines, alors qu'il est marié. Quel que soit son titre, je m'en fiche. Je dis, frère, ça, c'est péché. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, je te dirai la vérité, c'est une abomination, tu es dans le péché. Et toi et moi, on ne peut pas être amis, c'est pas la peine. Pas besoin d'amis comme ça. Pas besoin de gens pour me mener en enfer et pour amener la poisse dans ma maison. C'est ce qu'on appelle le transfert de poisse. Jonas avait la poisse, il se transfère la poisse. Mes amis, faites attention à vos fréquentations. Dis à ton voisin, fais attention à tes fréquentations. La cinquième raison pour laquelle Dieu veut que tu portes du fruit, c'est parce que mûrir fait croître ta valeur personnelle devant Dieu et devant les hommes. Je répète, mûrir fait croître ta valeur personnelle devant Dieu et devant les hommes. Lorsque vous voyez une semence, généralement elle a très peu de valeur. Lorsque la semence a grandi et qu'elle a produit des feuilles, elle a une certaine valeur. Mais lorsqu'elle commence à porter du fruit, vous allez remarquer qu'il se produit quelque chose. C'est que les gens commencent à venir. Parce que la plupart des gens cherchent le fruit. Les employeurs cherchent le fruit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les gens qui portent du fruit sont des gens qui sont sollicités. Les gens qui portent du fruit sont des gens qui sont recherchés. Les gens qui portent du fruit sont des gens qui, dont la valeur a soudainement augmenté. Aujourd'hui, la réussite au niveau professionnel ne dépend plus de la compétence, mais dépend de la capacité à entretenir des relations efficaces avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, en milieu professionnel, le travail d'équipe est une nécessité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, il y a des gens qui sont compétents, mais ils ne savent pas du tout s'entendre avec les autres. Il est tellement rempli de manque de confiance en lui-même que dès que quelqu'un fait un très bon travail dans l'entreprise, il a peur, il se sent menacé par, il a peur de perdre son travail, son poste, il a peur. Ces gens-là, généralement, ne durent pas longtemps dans les entreprises. Ce sont les premiers à être licenciés dès qu'on commence à parler de plan social. Alléluia. Lorsque tu portes du fruit, beaucoup de gens sont nourris à cause de toi. Ou pas à cause de toi, mais par toi. Beaucoup de gens sont édifiés. Dieu est glorifié parce qu'il t'a créé pour porter du fruit. Et lorsque tu portes du fruit, suivez-moi bien, et que c'est un fruit qui est rare, alors les gens sont prêts à payer cher pour te rencontrer, pour t'avoir toi. Que quelqu'un dise amen. Lorsque ce n'est pas une saison, aujourd'hui je me suis rendu compte qu'en France, nous sommes dans une saison de sécheresse. Je parle de valeur morale. Je parle de caractère, je parle d'intégrité, je parle d'amour, je parle de justice, je parle d'équité, je parle d'excellence. Lorsque ces fruits de douceur, d'humilité, lorsque ces fruits de l'amour, de la patience, de la douceur sont rares, ce qui est le cas aujourd'hui, et que toi tu les portes, les gens vont te courir après. Donc c'est toi qui en bénéficies. Alléluia. Et le sixième point, c'est que lorsque tu grandis, lorsque tu mûris, tu fais mûrir toute la famille à laquelle tu appartiens. Parce que tu es un membre du corps. Lorsqu'un membre du corps mûrit, tout le corps forcément mûrit. Ce qui t'arrive, affecte également tout le corps auquel tu appartiens. Alors si tu grandis, tu seras une bénédiction pour l'Église. Si tu ne mûris pas, tu n'es pas une bénédiction pour la famille de Dieu. Alléluia. Je vais finir avec trois points importants. Je vous ai parlé de pourquoi tu dois porter du fruit. Je vais finir avec trois mythes erronés. Trois mythes qui sont faux et qui concernent la maturité. Trois choses que nous croyons, quatre affirmations que nous avons souvent dans notre inconscient à propos de la maturité, mais qui sont complètement fausses. Est-ce que vous êtes prêts? Le premier mythe faux à propos de la maturité, c'est que la plupart d'entre nous croyons que la maturité est automatique. C'est-à-dire, dès que je grandis, automatiquement, je mûris. Je grandis et je mûris. Dis à ton voisin, faux. Vous savez pourquoi c'est faux? Parce que l'effort que doit faire, il y a un effort à faire. Et cet effort consiste simplement... Non, que quelqu'un dise, il y a un effort à faire. L'effort que tu dois faire, ce n'est pas de porter du fruit. Parce que je n'ai jamais, même quand j'ai dormi, même quand je dors sous un manguier, vous n'entendrez jamais un manguier produire des mangues, et quand les mangues sortent, vous n'allez jamais entendre. Vous n'entendrez jamais un manguier sortir des mangues avec un bruit quand vous êtes sous l'arbre, là, vous n'allez pas entendre. Ça ne fait pas d'effort. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas d'effort à faire pour porter du fruit, mais il y a un effort à faire. C'est lequel? L'effort que tu dois faire, c'est celui qui consiste à demeurer attaché au tronc. Que quelqu'un dise amen. Il y a un effort à faire et cet effort consiste à rester attaché au tronc. Parce que dès que tu es attaché au tronc et que tu es une branche, automatiquement la sève, la vie qui coule dans le tronc va arriver dans la branche et va produire du fruit. L'effort que j'ai à faire, c'est de rester attaché au tronc. Alléluia. Alors, je tiens à vous dire une chose. Nos efforts ne nous sauvent pas. Tu n'es pas sauvé à cause de tes efforts. Parce que ça encore, c'est un truc qu'il faut dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'efforts. Ils font une offrande et puis ils disent, Seigneur, tu as vu, hein? Tu as vu? Regarde bien. Ils font une autre chose. Ils donnent de l'aumône aux pauvres. Ça, c'est ce que la religion nous a appris. Je fais du bien. Et puis on dit, ah, Dieu a vu. Ça là, c'est pas ça qui va te rendre agréable à Dieu. Ce qui te rend agréable à Dieu, c'est le fait de croire en Dieu par la foi en Jésus-Christ. Que quelqu'un dise amen. Maintenant, la Bible dit que lorsque tu as cru en Dieu par la foi, maintenant Dieu veut que tu fasses des efforts, que Dieu veut voir des bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres que tu vas faire ne t'achèteront jamais le salut. Amen. Alors, si quelqu'un, je disais, vous avez des efforts à faire. Et dans le Nouveau Testament, il est commandé à plusieurs reprises de faire des efforts. Alors, je vous lis quelques exemples. Parce qu'il y en a qui pensent que la maturité est automatique. Non, la maturité n'est pas automatique. La seule chose qui soit automatique, c'est la mort. Ça, c'est pour tout le monde. Que quelqu'un dise amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La mort est automatique. Tôt ou tard, la mort te prendra. Mais ce qui n'est pas automatique, c'est pas parce que tu nais que tu vas grandir. Pour grandir, tu dois t'engager. Pour grandir, tu dois décider de grandir. Pour mûrir, tu dois décider de mûrir. Ça ne vient pas tout seul. Quelqu'un dit amen encore. Luc 13, verset 24. Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Luc dit, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Waouh! Et dans Philippiens, Philippiens 2, Paul dit, travaillez avec salut, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ça veut dire, maintenant que vous êtes sauvés là, gardez bien le cap, gardez bien le volant. Parce qu'il y a beaucoup de tempêtes, beaucoup de turbulences, il y a beaucoup de choses. Gardez bien le volant, restez focalisé. Tu ne restes pas focalisé, tu tomberas. Il y a quelqu'un qui dit amen. Ephésiens 4, verset 3. Ah, ça j'aime bien ça. Ephésiens 4, verset 3. Efforcez-vous, que quelqu'un dise efforcez-vous, de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. La Bible dit, Paul dit, par le Saint-Esprit, efforcez-vous de conserver l'unité. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que garder l'unité, c'est facile? Il y a tellement de choses simples et faciles qui peuvent nous diviser. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais Paul dit, faites des efforts. Efforcez-vous de rester unis dans la paix. Parce que c'est facile de se diviser. C'est facile d'être fatigué par les gens. C'est facile de ne plus supporter quelqu'un. C'est facile de n'être plus humble, de n'être plus aimable, de n'être plus patient. C'est facile. Paul dit, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. Parce que là où il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de puissance. Là où il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de grâce. Là où il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de faveur. 2 Timothée 2, verset 5. Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Efforce-toi, dis à ton voisin, efforce-toi. Hébreux 4, verset 11. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. 2 Pierre 3, verset 14. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Je reprends. C'est pourquoi, mes chers amis, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable. Ah! Donc je dois faire des efforts pour marcher dans la pureté? Faites tous vos efforts. Alléluia. Alors je vais finir avec là-dessus avec Hébreux 12, verset 14. Lisez bien. Je lis la version du Semeur toujours. Faites tous vos efforts. Quelqu'un est désespéré. Il dit, mais je croyais qu'il n'y avait pas d'efforts à faire. Si, mon frère, il y a des efforts. Il y a des efforts. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de sanctification. La version ici dit, une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Waouh! Ça veut dire que pour vivre en paix avec les autres, il faut faire beaucoup d'efforts. Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses auxquelles, pour vivre en paix, tu vas devoir choisir volontairement de ne pas regarder. Il y a des choses que tu vas devoir choisir volontairement de ne pas écouter. Parce qu'il y a des choses, si tu les écoutes, ça peut t'énerver. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, Dieu dit, faites tous vos efforts pour être en paix. Il y a des incidents que tu vas devoir faire l'effort de minimiser. Parce qu'il y a des incidents auxquels, si tu accordes de l'importance, tu ne seras plus en paix avec la personne. Alors faites vos efforts pour être en paix. Ça veut dire minimise ça. D'accord, il t'a fait ça, mais laisse tomber. Il t'a fait du mal, laisse tomber. Il est passé à côté de toi, il t'a pas dit bonjour. Laisse tomber, minimise, fais un effort. Et oui, ça coûte parce que ça te fait mourir à toi-même. Mais au moins, la paix est préservée. Et c'est pas la peine après de garder ça dans ton cœur aussi. Hein? Alléluia. Alors il dit ensuite, faites vos efforts pour vivre une vie de plus en plus sainte. En bon, pour marcher dans la sainteté, il faut faire des efforts. Mon gars, demande à Joseph. Mais il y a des gens qui me font rire. Je ne comprends pas. Je suis allé chez lui, il est venu chez moi. On n'est pas prévu, mais on a couché ensemble. Pasteur, je ne sais pas quoi faire. Ah bon? Faites tous vos efforts pour vivre dans la sainteté. Ça veut dire qu'il y aura des fois des tentations alléchantes et séduisantes qui vont plaire à ta chair et pour lesquelles tout ton être dira oui. C'est-à-dire que quand tu regardes là, tu te dis non, Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche là, franchement? La sœur dit, oh frère, tu es trop mignon. Le frère, ça fait 10 ans qu'il attend. La libido est là. Les pulsions sont là. Dieu dit, faites des efforts. Je me calmerai. Que quelqu'un dise amen. Non, vous comprenez ce que je veux dire? Mais il y a des efforts à faire. Tu ne fais pas d'efforts, mon ami. Tu n'as pas à aller chercher la tentation. La tentation, elle vient. Tu peux même fermer les portes de la maison. Elle vient devant la télé. Tu éteins la télé, elle vient par la radio. Tu éteins la radio, elle vient dans tes pensées. Alors, voilà, c'est pas possible. Pensez là, ça suffit comme ça. Laissez-moi tranquille. Tu auras des propositions alléchantes, des tentations. J'appelais ça propositions indécentes. Il y aura des propositions indécentes qui a vu le film. Auquel tu vas devoir dire non. Des gens qui viennent pour te courtiser, pour te proposer quelque chose, pour te faire tomber. Mais Paul dit, faites vos efforts. Serre les dents. Non. Joseph a connu ça. La femme de Potiphar. Joseph était un beau gosse, mon gars. Joseph était un beau gosse. Elle vient, dit Joseph, couche avec moi. Joseph dit non. Elle revient encore, couche avec moi. Joseph dit non. Mais gars, Potiphar n'est pas là. Tout le monde est parti. On n'est que tous les deux dans la maison. Quand quelqu'un te l'a dit, bon, fais et puis. Après, tu suis la bouche. Et puis c'est fini. La Bible dit, fais des efforts. Serre les dents, dit non. Je refuse. Non. Jamais je ne pécherai contre mon Dieu. Parce que si Dieu me rejette, je vais aller où? Que quelqu'un dise amen. Donc tu comprends, frère. Pour marcher dans la sanctification, pour marcher dans la sainteté, dans une vie qui est agréable à Dieu, il faut faire des efforts. Ce n'est pas automatique. Alors, quelqu'un qui se plaint, oui, je ne comprends pas pourquoi je tombe. Regarde tes fréquentations. Parce que ta force vient par des gens, ta faiblesse vient aussi par certaines personnes. Il y a des gens qui te rendent faible. Sors-les de ta vie. Arrête de dire, oui, mais si je le sors de ma vie, il va partir de ma vie vraiment. Je dis, mais oui, c'est pour ça que je dis de le sortir de ta vie. C'est pour qu'il dégage. C'est pour qu'il déguerpisse. Je peux te trouver des synonymes si tu veux. Dégage, déguerpis, dehors, oust. Ciao, ciao, bye bye, hasta la vista, arrivederci. Dégage. Mais il y a des gens, tu sais, qui te rend faible. Tu es toujours là, reste avec moi. Mais il te rend faible et il va te mener en enfer. Je ne viendrai pas avec vous. Et puis quand il vient te voir, je suis toujours la victime. Non, ce n'est pas ma faute. Ils font comme Aaron. On était là, on a mis l'or et puis la statue, le veau d'or est sorti. On était là, puis on ne sait pas ce qui s'est passé, et puis on est tombé. Ah bon? Vous êtes tombé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je ne sais pas, j'ai oublié. Ah bon? Un enfant doit faire des efforts pour grandir. Que quelqu'un dise amen. Si tu tombes tout le temps dans le péché, si tu n'es pas fort, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est parce que tu n'as pas décidé de faire des efforts. Lorsque tu fais des efforts, ça veut dire que tu décides de résister. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. La tentation vient, tu pousses, elle vient, tu pousses, elle vient, tu pousses, elle vient, tu pousses, jusqu'à ce qu'elle en ait assez et qu'elle s'en aille complètement. C'est ça, faire des efforts. Tu dois pousser. Pour pousser, il faut faire des efforts. En grec, c'est agonisomai. Ça veut dire, même si je dois passer par l'agonie, je dis non. La tentation viendra, mon frère, ma soeur. Pour grandir, tu dois t'engager. Et quand tu t'engages, ça veut dire que tu dois faire des efforts. Deuxième point, je finis. Dans 5 minutes. Deuxième point. Le deuxième mythe. Le premier, c'était la maturité est automatique. Elle n'est pas automatique. La seule chose qui soit automatique, c'est la mort. Pour mûrir, il faut faire des efforts. Le deuxième point, c'est que la maturité vient avec l'âge. Ça encore, c'est faux. Que quelqu'un dise, c'est faux. Beaucoup de gens pensent que la maturité vient avec l'âge. Ça veut dire, je suis maintenant dans l'église depuis 5 ans. Je suis dans l'église depuis 10 ans. On m'appelle l'ancien Claude. Mon gars, ça ne veut pas dire que tu es mature. On n'en a rien affaire. Parce que la Bible dit dans Job 32, versets 7 à 9, « Je me disais, ceux qui ont un âge avancé sauront parler. L'expérience de l'âge fera connaître la sagesse. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, l'inspiration du Tout-Puissant qui lui donne de l'intelligence. » Verset 9, « Un grand nombre d'années ne rend pas forcément plus sage. Et ce ne sont pas les vieillards qui comprennent ce qui est juste. Non, ça, il faut dire ça en Afrique. Parce qu'ils pensent que plus tu as les cheveux blancs, plus tu es sage. Plus tu as les cheveux blancs, plus tu es mûr. C'est faux. Il y a des gens qui ont des cheveux blancs, mais qui sont des vrais gamins. Des criminels. Et des bébés. La maturité ne vient pas avec l'âge. La maturité vient avec l'engagement. Que quelqu'un dise engagement. Que quelqu'un dise engagement. La maturité vient lorsque tu as décidé de mûrir. Elle ne vient pas avec l'âge. Tu peux rester 10 ans dans l'église et être un bébé. Quelqu'un peut avoir 6 mois dans l'église et apprendre et commencer à porter déjà du fruit. Vous, à quoi vous reconnaissez ça? Regardez, je vous dis, c'est ça. Il y a des gens, ils sont dans l'église depuis longtemps. Mais il ne faut pas les bousculer. Il ne faut pas les provoquer. Il ne faut pas mal parler. Il ne faut pas choquer. Moi, je suis dans mon coin. Je fais ce que j'ai à faire. Le jour où je dis quelque chose, tu dois écouter. Si je n'écoute pas, tu n'écoutes pas. Les gars commencent à s'énerver. Mais le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, c'est une tranche du fruit de l'esprit que quelqu'un dise amen. Déjà, ils n'ont pas la maîtrise de soi. Tu fais une critique, il réagit mal. Ah, il m'a critiqué. Je suis là depuis 10 ans. Mais tu n'es pas mûr. Tu es là depuis 10 ans, mais tu n'es pas mûr. Tu réagis, tu ne sais pas te contrôler. D'abord, tu ne sais pas contrôler tes pulsions. Tu ne sais pas gérer tes émotions. Tu n'es pas mûr. Arrête de dire aux gens, j'ai 10 ans de sanctification et 15 ans dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, je suis diacre de là d'où je venais. J'étais assistant pasteur. On s'en moque. Est-ce que le fruit est là? Que quelqu'un dise amen. Troisième mythe qui est complètement erroné, c'est qu'on peut mûrir sans changer. Il y en a qui pensent qu'on peut mûrir, porter du fruit sans changer. Parce que les gens n'aiment pas changer. Moi, je suis comme je suis. Ah, tu sais, pasteur, moi, je viens maintenant à l'église. Hein. Je viens à l'église là, mais moi, il ne faut pas me demander de changer. Moi, j'ai mes copains, mes copines, mes amis. Ils sont dans le monde, mais il ne faut pas les toucher. Bon, prêche la parole que tu veux, mais ne m'oblige pas à faire certains choix dans mes fréquentations. Moi, je ne veux pas changer. Tu ne mûriras pas. Parce que tout ce qui mûrit passe par une transformation, c'est-à-dire un déplacement de forme. La forme était petite, elle grossit. Le changement ne veut pas dire que tu vas mûrir. Que quelqu'un dise amen. Parce qu'il y a des gens, qui changent, mais qui ne mûrissent pas. Mais par contre, pour mûrir, tu es obligé de passer par une phase de changement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alléluia. Alléluia. Le dernier point, je finis avec ça. Dernier point, mythe erroné encore. Il y en a qui pensent que la maturité vient avec la connaissance. La connaissance est indispensable pour mûrir. Parce que dans la vie, tu ne peux pratiquer que ce que tu connais. Je ne sais pas bricoler, donc je ne peux pas bricoler. Il y en a qui ne savent pas comment danser, donc ils ne peuvent pas danser. C'est pas pendant les cultes, il y en a, ils bougent pas. Mais nous comprenons. Parce que tu ne peux pas pratiquer ce que tu ne connais pas. Mais la connaissance n'est pas tout. Que quelqu'un dise amen. Parce que la Bible dit que la connaissance enfle. La connaissance rend certaines personnes arrogantes. Ils pensent qu'ils connaissent. Alors moi j'aime ça parce que, moi vous savez, comme j'ai beaucoup de papiers, dans la tête aussi. C'est comme ça que disent les Ivoiriens. On a papier, ça veut dire qu'on a de la matière grise aussi. On a du quotient intellectuel. Alors il y en a, vous les voyez, vous parlez avec eux, et puis ils vous disent... Je suis docteur en économie, docteur en droit, docteur en S-lettres, chômeur depuis 10 ans. Et quand vous parlez avec lui, le gars, tu lui parles de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, il te dit, oh, tu savez, la foi, c'est pour les faibles, hein, la foi, là, c'est pour les gens qui sont dans le besoin, etc. Par la grâce de Dieu, j'ai un bon travail, etc. Mon ami, rendez-vous d'ici quelques années. quand tu vas connaître le burn-out, tu vas stresser, tellement oppressé par ton travail, comprimé, déprimé, opprimé, supprimé. Mon ami, le travail ne te donne pas l'épanouissement personnel. Que quelqu'un dise amen. La présence de Dieu fait toute la différence. Mais ta connaissance peut te mener en enfer. La connaissance ne veut pas dire que tu es mûr. Tu peux connaître beaucoup de choses, c'est vrai. En Afrique, on a souvent l'impression, je parle de l'Afrique parce que c'est ce que je connais, je sais qu'en France, ce n'est pas toujours le cas, mais on a souvent l'impression que plus quelqu'un connaît et plus il est mûr. C'est faux. Plus quelqu'un connaît et plus il devrait être, devrait grandir, atteindre la maturité, mais ce n'est pas le seul ingrédient. Parce qu'en réalité, pour être mûr, il ne faut pas que la connaissance, il faut travailler, c'est ce qu'on verra les semaines prochaines, il faut travailler également, à part la connaissance, il faut grandir aussi dans le domaine des compétences, dans le domaine du caractère, dans le domaine des convictions, c'est-à-dire des valeurs, et dans le domaine de la compréhension, de la perspective, apprendre à voir les choses du point de vue de Dieu. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous devons grandir. Grandir, avoir de la connaissance ne suffit pas. Et le pire, c'est les gens qui ont la connaissance mais qui ne l'appliquent pas. Ils savent ce qu'il faut faire mais ils ne le font pas. Et puis, quand tu enseignes un enseignement aussi simple que ce que je suis en train de donner aujourd'hui, il y a quelqu'un dans cette salle qui est en train de dire « Oh, mais ça, on connaît déjà. » Il y a quelqu'un qui pense ça. « Oh, mais ça, c'est évident, c'est trivial. » Aujourd'hui, là, c'est pas terrible, hein? On connaît. Mais on s'en moque. Est-ce que tu le pratiques? Tu connais ça. Mais est-ce que le fruit, là, chez toi, est-ce qu'il est manifeste? Parce que tu pourras me parler, me dire « Je connais. » Lorsque je verrai le fruit chez toi, je dirai « C'est bon pour toi. » Je coche la case. Ok, validé. Mais la plupart des gens qui parlent comme ça, ils n'ont aucune humilité. Déjà. À la base, déjà, c'est zéro parce qu'aucune humilité. Parce que tu es en train de comparer. Il se dit même pas non. Gloire à Dieu parce que quelqu'un est en train de recevoir ça. Même lui-même, il ne reçoit pas pour lui. Il dit, oh, ça, c'est pas pour moi, c'est sûrement pour quelqu'un qui est à côté de moi. Ah, c'est vrai que telle personne, elle est tellement misérable qu'elle a besoin de ce genre de paroles. Hein. Mais moi, tu sais, moi, franchement, là où je suis très, très bien déjà par la grâce de Dieu. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu m'as créé à la perfection. Oh, oublie-nous. J'ai bientôt fini. Que quelqu'un dise amen. Il y en a qui pensent qu'ils connaissent. Tu ne connais pas, tu sais, tu ne connais pas encore. Parce que la connaissance implique l'expérimentation. Je sais que tu connais lorsque je vois que tu es en train de le pratiquer régulièrement. Mais il y en a, ils ne pratiquent rien et puis ils disent, je connais, tu connais rien. Alors, tais-toi, assieds-toi et écoute. Des fois, ça sera trivial ce qu'on te dira. Qu'importe, écoute. Et quand tu le mettras en pratique, quand tu le vivras dans ta vie, alors tu seras capable de parler. Mais lorsque tu vivras dans ta vie, en réalité, tu seras humble. Tu ne seras pas arrogant et prétentieux. Moi, je ne parle pas à toi, mon frère, hein, ou ma soeur. Je parle à quelqu'un qui va écouter ce message dans la cassette. Parce que nos messages passent maintenant sur Internet. Alléluia, gloire à Dieu. Et je reçois des emails du Maroc, du Canada, du Congo démocratique, de Côte d'Ivoire, de partout, des emails de gens qui disent qu'ils sont bénis en écoutant les messages de ICC. Il y en a, ils ont même arrêté d'aller à l'église et puis ils préfèrent écouter les messages sur Internet. Je leur dis, non, allez quand même à l'église. Ils disent, mais parce que quand je vais à l'église, je reçois de la down. Je dis, bon frère, que Dieu te bénisse, va à l'église. Alléluia. Que quelqu'un dise amen. La connaissance est indispensable, mais la connaissance ne veut pas dire maturité. Ne faites pas comme la souris, je vais finir par ça. La souris, mon frère, elle sait. Elle sait. Vous connaissez la mentalité de la souris? Il y en a qui ne connaissent pas, je vais la raconter encore de nouveau, ça fait longtemps que je ne l'ai pas raconté celle-là. Il était une fois une souris, de génération en génération, 4 générations de souris. La souris sait que là, on a mis un appât pour lui couper la tête. Alors, quelqu'un vient, c'était qui a fait ça? Le rat, c'est ça? Je ne sais plus qui a fait ça. C'est la souris, non? Oui. Alors, quelqu'un a mis un appât. La souris l'a regardé depuis sa grotte. Elle a vu, quelqu'un est venu mettre l'appât. Il a mis un petit morceau de viande et puis il a mis un piège. Le grand-père l'a vu, l'arrière-grand-père l'a vu, le père l'a vu et le fils l'a vu. Et ils ont tous vu le piège. Donc, ils connaissaient. Ils savaient. Merci. Mais l'arrière-grand-père, il a quand même vu, il a vu l'appât, mais il va quand même, il met sa tête, et les autres sont en train de regarder depuis la grotte, les autres restent. Hein. Pendant qu'il part, il sort de la grotte, il rôde autour de l'appât, et puis à un moment donné, il veut toucher quand même la viande, la convoitise, il veut quand même toucher la viande. Pouf! Son cou est coupé. Et grand-père l'a vu, le fils l'a vu, le père l'a vu. Le lendemain, c'est le grand-père qui y va. Au même endroit, vous mettez le même piège. Le même piège est mis au même endroit. le grand-père va, il tourne autour, il veut toucher le morceau de viande. Boum. Le fils l'a vu. Il a vu ça en direct, la scène live. Le fils repart le lendemain. Le fils repart le lendemain, il tourne encore autour du même appât. Même pas besoin de déplacer l'appât. Vous le laissez au même endroit. Sa convoitise va le perdre. Il arrive, le papa arrive, et toutes les générations ont été exterminées par le même problème. Ils ont vu ce qui s'est passé. Tu as vu les effets de l'alcoolisme. Tu as vu les effets du cannabis. Tu as vu les effets de la drogue. Tu as vu les effets du fait que ton père a battu ta mère. Tu as vu toutes ces choses, mais tu les reproduis toi-même. Mentalité de souris. Tu as vu exactement comment est-ce que les gens font pour échouer, mais tu fais exactement ce qu'ils ont fait pour échouer et tu le refais encore. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Tu dis, je suis diplômé de HEC. Oh, on s'en moque. Ils sont nombreux à être alcooliques, ils sont nombreux à être dépressifs. La connaissance de Dieu est la meilleure des connaissances. Nous allons incliner la tête et prier. Porter du fruit, arriver à la maturité, mon frère, ma soeur, n'est pas une option, c'est un commandement. Dieu veut que nous grandissions. Nous allons voir les semaines futures. Comment grandir? Où grandir? Dans quel environnement? Dans quel domaine? Nous allons répondre à toutes ces questions. Aujourd'hui, nous allons prier, nous allons nous mettre devant Dieu et dire au Seigneur, Seigneur, je m'engage à grandir. Je veux porter du fruit. Pas seulement grandir, mais porter du fruit. Commencer à grandir, mais je prie que le fruit de l'esprit, le fruit de ta justice, de ta sainteté, de ton amour, de ta douceur, de ton humilité, de la maîtrise de soi, de la joie, de la paix. J'en ai assez d'être toujours dans la tristesse, dans l'abattement. Ça, c'est le fruit de l'enfer, ce n'est pas le fruit de l'Esprit de Dieu. Que la joie du Saint-Esprit soit désormais ma force. Cette joie qui ne dépend pas des circonstances. Cette joie qui ne dépend pas des challenges. Cette joie qui ne dépend pas des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Cette joie qui dépend simplement de l'amour de Dieu qui remplit mon cœur et qui me remplit soudainement de joie, même au milieu de la tribulation. Père, la prière de mon cœur ce soir, c'est que tu m'accordes la grâce de grandir, de changer ma mentalité, de grandir en œuvre, de grandir, de mûrir en œuvre, de mûrir en mentalité, de mûrir en caractère, de mûrir en connaissance, de mûrir en compétence, de mûrir en valeur, de mûrir en aptitude, de mûrir en compréhension, en perspective. Accorde-moi la grâce de mûrir. Ce matin, je m'engage à mûrir. Je refuse de rester un bébé, je refuse de rester un enfant, parce que j'ai compris que le risque, c'est que je me fasse complètement retrancher de toi, Seigneur. Je ne veux pas être retranché. Et je dis ce matin comme Pierre, où irais-je, Seigneur? À qui irions-nous? Tu es le seul à avoir les paroles de la vie éternelle. Tu es le seul à être la vie éternelle. Si tu me rejettes, qui m'acceptera? Si tu me rejettes, je sais que c'en est fini pour moi. Alors ce matin, je reconnais que tu es le potier et que je suis l'argile. Je reconnais que tu es le créateur et que je suis la création que tu as faite à ton image. Ce matin, j'accepte de m'humilier devant toi et je te demande de travailler maintenant par la puissance de ton esprit à l'intérieur de moi et au travers de moi afin que le fruit de l'esprit, que la plénitude de Christ soit manifestée désormais en moi. Que ton nom soit sanctifié, que tout ce qui est en moi, Père, resplendisse, exprime, manifeste la sainteté de sa majesté, afin que l'on me voie et que en me voyant, l'on dise, oh certainement, Dieu est réel, Dieu est vivant. Je l'ai vu au travers de cette sœur, je l'ai vu au travers de ce frère. Je reçois ce matin cette parole avec action de grâce et je prie qu'elle tombe sur une terre fertile. Seigneur, qui va produire beaucoup de fruits, car tu as dit dans ta parole, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alors je dis oui à ta parole. Oui, Seigneur, à la maturité. Oui, à la sainteté de Dieu. Oui, au changement de mentalité. Je cesse d'être un enfant. Je cesse de me justifier. Je cesse de m'excuser. Je cesse de donner toujours des arguments pour justifier la médiocrité, la misère dans laquelle je suis. Je sors de là et je dis, maintenant ça suffit. Il faut que ça change. Et par la puissance de ton esprit, ça changera. Ça change dès maintenant dans ma mentalité. Je me lève et je grandis et je porte du fruit, Seigneur. La semence du royaume de Dieu qui était plantée en moi grandit pour devenir comme un arbre, Seigneur, que le monde prendra pour appui. Les gens viendront me voir et me demanderont des conseils, me demanderont de l'encouragement, me demanderont, Seigneur, des éclaircissements. Les gens viendront me voir et ma vie portera du fruit. Et Seigneur, ce fruit sera célébré, ce fruit sera acclamé, ce fruit, Seigneur, sera un témoignage à la gloire de ton Saint-Nom. Blessed be the name of the Lord, parce que tu commences une chose et tu l'achèves. Et je dis ce matin, oui. In the name of Jesus. Hallelujah. Je vais demander à l'église de se lever ce matin. Nous allons faire une prière. Il y a quelqu'un dans cette salle qui a besoin de revenir à Dieu. Il y a quelqu'un dans cette salle qui depuis des années n'a pas porté de fruits. Il y a quelqu'un depuis des années qui continuait de croupir là où il était en train d'essayer de s'excuser tout le temps. Mon frère, ma soeur, je vais te donner l'occasion d'élever la voix et de chanter avec moi ce chant. Je dis oui. Et pendant ce temps, je sais, je crois, je sens que Dieu va restaurer, renouveler, libérer quelqu'un, délivrer quelqu'un d'un fardeau pesant, d'un joug qui l'alourdissait, qui te retenait, le passé qui te retenait, qui te condamnait toujours. Ce passé sort maintenant dans le nom de Jésus. L'emprise de ce passé n'agira plus jamais sur toi. Sois libre, sois libéré complètement de l'emprise de la culpabilité, de l'emprise du rejet, de l'emprise de la peur, de l'emprise de l'inquiétude, de l'emprise du manque de pardon. Sois libéré de tout ce qui te retenait, tout ce qui te limitait. Élève la voix et maintenant proclame: je suis libéré, je grandis, je porte du fruit, je mûris, je ne laisse plus personne me stopper, m'emprisonner, me cadenasser, me verrouiller, plus personne. Seigneur, par la grâce par la grâce qui est en Christ Jésus, je déploie mon potentiel. Je grandis pour devenir un point de référence à la gloire de Dieu. Ma vie resplendit la gloire de l'Éternel. Je cesse de m'excuser. Je cesse de m'apitoyer. Je cesse de me plaindre. Je cesse de chercher des raisons. Je cesse de chercher des excuses. Je choisis de grandir et de porter du fruit, de mûrir et de resplendir la gloire de l'Éternel. In the name of Jesus. Seigneur, je te dis merci. I receive that word. Je reçois cette parole. Merci de ce que tu commences une œuvre en moi. Tu l'achèveras. Tu la compléteras. Elle brillera. Je resplendirai la gloire de l'Éternel. Non pas ma gloire, mais ta gloire, ta splendeur, ton caractère, ta nature. Merci de ce que tu le fais par la puissance de ton esprit qui agit en moi. In the name of Jesus. Quelqu'un dans cette salle ne te connaissait pas. Maintenant, il te connaît. Maintenant, il revient. Quelqu'un pensait être trop intelligent pour recevoir Jésus dans sa vie. Ce matin, les raisonnements tombent. In the name of Jesus. Quelqu'un qui pensait être trop brillant, trop instruit, reçut milice ce matin devant sa majesté et reconnaît encore réalité: je ne suis rien. Le souffle que j'aime vient de toi. La vie vient de toi. La paix vient de toi. L'assurance vient de toi. Seigneur, je ne m'appuie plus sur mes diplômes. Je ne m'appuie plus sur ma profession. Je ne m'appuie plus sur mes compétences. Je m'appuie sur le rocher de mon salut. L'Éternel est mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je dis oui, oui, oui à ta parole. Je dis oui, je dis oui, je dis oui à ta parole. Je dis oui, je dis oui, je dis oui à ta parole. Je la maturité, Seigneur, je dis oui, je m'engage, je m'engage, je dis oui, je m'engage, je dis oui, je m'engage à te suivre, à t'obéir, je m'engage, Seigneur, je dis oui, Seigneur, je dis oui, je dis oui, Seigneur, je dis oui, je dis oui à la maturité, au changement de mentalité. Je dis amen, je dis amen à ta parole, amen à ta présence, amen à ta transformation. Je dis amen à la croissance, amen la maturité, amen. Je dis amen, amen, je dis amen, Seigneur. Je dis amen, je dis amen, Seigneur. Je dis amen, amen. Seigneur, ce matin, nous disons amen à ta parole, amen à ce contrat de maturité. Ce n'est pas une option, Seigneur. Nous reconnaissons que ce n'est pas par notre capacité, mais que c'est par la grâce de Dieu. Alors nous te bénissons de ce que tu as commencé en nous, une œuvre que tu rendras parfaite, ô Dieu. Maintenant, fais-nous mûrir, afin que le fruit que tu attends de voir et de montrer au monde, afin que le monde goûte ce fruit et voit combien le Seigneur est bon au travers de nos vies, que ce fruit puisse désormais émerger, être concret, pertinent, visible, palpable, Seigneur. Plus d'excuses, plus de justifications, plus de médiocrité, Seigneur, et d'apitoiement, plus de rejet et de compression, de dépression, Seigneur, mais uniquement ta gloire manifestée au travers de nos vies. À toi la gloire, in Jesus' name, parce que tu l'as commencé et tu l'achèveras. Nous te faisons confiance, in Jesus' name. Amen.